Hello et bienvenue sur NYO How Did You Make It, le podcast au sein duquel nous explorons chaque étape qui a construit le parcours professionnel de personnes les plus différentes les unes des autres, à travers la découverte de leurs habitudes, passions et intérêts au cours des dernières décennies. Moi c'est Yosra et aujourd'hui on rencontre Soumaya. Soumaya est franco-marocaine et l'une des expertes en éducation au sein de l'OCDE, rien que ça. Si l'OCDE ça ne te parle pas, elle t'en dira plus. Et on te partage également des recherches menées par Soumaya et ses équipes autour des programmes et des sujets éducation et compétences. Du Maroc à la France, en passant par les États-Unis, elle te partage durant cet épisode son parcours et les conseils qu'elle a reçus et qu'elle t'invite à suivre. Elle t'inspire et te donne envie de relever ton prochain défi, d'accepter les échecs et d'adopter un état d'esprit orienté vers la croissance, le growth mindset. C'est cette croyance que tes capacités et ton intelligence peuvent être développés grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Je t'en dis pas plus. T'es prêt? T'es prête? Prends des notes surtout. Partons à sa rentre. Hello Soumaya et bienvenue sur NYO How Did You Make It? Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter.
Hello Yosra. Déjà merci de m'accueillir dans le podcast. Vraiment contente d'être là avec toi. Alors je m'appelle Soumaya. J'ai 35 ans. Je suis analyste des politiques d'éducation à l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est basée à Paris. Je suis franco-marocaine, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans et je suis venue ensuite faire mes études en France et je suis restée depuis.
Merci Soumaya, j'ai si hâte de parler de ton parcours. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous partager ta définition du succès?
Ma définition du succès. Je pense que là, en ce moment, ma définition du succès, ce serait de vivre une vie sans regret. C'est-à-dire que à la fin de la vie, au moment de faire une rétrospective, de pouvoir me dire j'ai vécu une vie pleine et je n'ai aucun regret par rapport à les choix de vie que j'ai faits ou à la manière dont je me suis que j'ai conduit ma vie ou je me suis conduite envers les autres. Donc je pense que ça serait un peu ça ma définition du succès.
Et la Soumaya adolescente plus jeune, elle partageait cette définition aussi?
La Soumaya plus jeune, je pense que la Soumaya plus jeune avait un début de définition qui commençait à surgir. Cette idée d'avoir une vie pleine, en fait, m'est venue à l'enfance, enfin à l'enfance-adolescence, comme beaucoup d'enfants, j'avais une envie de découverte, une envie d'avoir une expérience et que ma petite vie d'enfant cadré à m'ennuyer dans certains aspects et j'avais envie de vivre plein d'aventures et d'avoir une vie pleine. Alors ensuite, comment je définissais ça serait sûrement un peu différent aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, j'avais envie de voyage, de découvrir le monde, de faire des expériences et d'être au cœur de l'action. C'est un peu ces envies-là qui émergeaient, qui m'ont accompagnée, qui continuent d'accompagner, mais avec, d'autres envies qui se rajoutent un peu plus, philosophiques sur ce que c'est que le succès.
Ça marche. Mais écoute, parlons de tes années collège. Quel type d'élève t'étais? Les passions que tu avais, les habitudes que tu avais, les activités extrascolaires peut-être que tu avais également?
Très bien, mais alors déjà je vais essayer de placer le cadre. Comme je le disais, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Pour ceux qui connaissent le Maroc, je suis Rabati. Et j'ai au collège, j'ai fait une école primaire dans une école marocaine privée. Et au collège, je suis passée dans un autre système éducatif qui était le système français. Donc, c'était le système français à l'étranger qui est géré par différents organismes. Donc, l'organisme qui est géré, l'école dont je faisais partie au collège et puis celle du lycée. S'appelle l'AEFE, qui est, j'espère que je ne vais pas écorcher l'acronyme, mais c'était l'agence des écoles françaises à l'étranger ou quelque chose comme ça. Donc, je situe ce cas parce que, en fait, donc le passage au collège a été bon, pour tous les enfants qui arrivent à cet âge-là, c'est un bouleversement. Il y a tout un changement de cadre. On était les plus grands, on devient les plus petits. C'est le moment du début de l'adolescence. C'était plein de bouleversements qui se passent à ce moment-là, de questionnements, de recherche de soi. Pour moi, il y avait aussi un changement on va dire, de milieu. Donc, j'étais dans une école primaire entourée d'élèves de classe moyenne, dont je faisais partie. Et les écoles où je suis allée au collège et au lycée, donc ce qu'il faut comprendre, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, sûrement, mais à l'époque, c'était des écoles, on va dire, le système français, sont des écoles qui, avec une population d'un niveau socio-économique très élevé, donc on était vraiment dans un milieu très riche. Dont je connaissais pas forcément les codes. Donc, c'était plein voilà, donc de trouver sa place. J'essayais de trouver ma place dans ce petit monde. Quoi dire? Donc, ça, c'est juste pour poser le cas, parce que je pense que c'est important de comprendre ça. Sinon, la Soumaya du collège. C'était une élève appliquée, un peu introvertie, qui aimait beaucoup lire, qui n'aimait pas trop faire du sport. voilà, et je pense que c'est un peu ouais, c'est le début du collège, on va dire, c'est un peu le cadre qui se profilait.
Super. Alors, j'ai tout plein de questions. Tu nous disais que tu étais une élève appliquée et introvertie. Est-ce que tu peux donner ta définition d'introvertie, ce que tu entendais par là?
Donc, ce que je veux dire par introvertie, c'est que j'étais plutôt réservée. J'aimais bien faire des activités un peu solo ou alors en très petit comité. J'aimais beaucoup lire. Je n'avais pas de problème à passer des heures seule dans mon monde. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. J'étais pas dans la recherche de la sociabilisation, forcément.
Et quel type d'élève étais-tu du coup? Qu'est-ce que tu veux dire par appliqué? Est-ce qu'après les cours, tu étudiais rigoureusement? Est-ce que tu avais des difficultés, mais tu arrivais à travers l'apprentissage à faire face à ces difficultés?
Alors, non, j'avais pas de grosses difficultés. Il y a eu la période d'adaptation, de changement de système éducatif, en fait, où il y avait une période, je me rappelle, c'était mon premier DS de maths en arrivant. Donc, j'ai rejoint le collège en cinquième parce que l'école marocaine, le primaire, se finit en fait à la sixième. Donc, je rejoignais l'école, le collège, alors que mes camarades étaient déjà là depuis un an. Donc, en cinquième, mon premier DS de maths, j'avais eu un 8 sur 20 et c'était la douche froide. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il fallait que je fournisse un effort, ce que je fournissais pas forcément au primaire. J'ai utilisé le terme appliqué parce que je pense que le grand déclic pour moi s'est passé un peu plus tard. C'était plutôt vers la fin collège, début lycée, en ayant une idée plus claire en fait de où est-ce que je voulais, à quoi je voulais que les études me servent. Et donc à ce moment-là, en fait, je suis passée d'une élève appliquée qui faisait bien ses devoirs et qui faisait ce qu'on lui disait, qui essayait d'avoir des bonnes notes à l'école, à, on va dire, une élève qui avait un but assez précis. Et donc, où je travaillais, je dirais, avec la même application, voire encore plus d'applications, mais avec aussi beaucoup d'intérêt. Parce que en fait, j'avais un objectif que je voulais atteindre, et donc c'est donc ça, donc ça a guidé les choses. Pour répondre à ta question, oui, je faisais bien mes devoirs. J'ai ce souvenir que les vacances scolaires, en début de vacances scolaires, j'essayais d'organiser toujours ma semaine ou mes 2 semaines de vacances en essayant de me dire qu'est-ce que je fais chaque jour. J'avais mon petit planning que je mettais à la porte de ma chambre avec ce qu'il fallait que je fasse. Voilà.
Et tout ça, ça venait de toi? Est-ce que c'était tes propres initiatives? Ou tu avais un cadre, des proches qui te guidaient? Comment approcher les cours? Que finalement, planifier ton emploi du temps, ça t'aide à y voir plus clair? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, mes parents ont toujours été très. M'ont beaucoup appuyé, m'ont aussi beaucoup encouragé. Et pour eux, bien sûr, pour eux, la réussite scolaire était très importante. Donc, c'était important pour eux que je sois que j'ai de bonnes notes, que j'apprenne à l'école, etc. Maintenant, ils n'étaient pas non plus derrière moi. C'est-à-dire que. N'ai aucun souvenir de mes parents qui faisaient les devoirs avec moi, par exemple. Donc, c'était au primaire, bien sûr, donc les premières années de primaire, mais très vite, ils m'ont appris à m'autogérer et à gérer le processus d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je leur suis très reconnaissante. Parce que je trouve que c'est très important, non seulement d'apprendre, surtout au collège et au lycée, mais aussi d'être capable de gérer son apprentissage et d'apprendre à apprendre, en fait, de pouvoir développer des compétences liées à l'apprentissage. Et finalement, je dirais que ces compétences-là, donc la capacité d'organiser son apprentissage, de chercher l'information, de réfléchir à comment apprendre de manière intelligente, toutes ces compétences-là sont aujourd'hui, je peux dire, aussi importantes dans la vie professionnelle, et je pense en celle de beaucoup de gens, que, on va dire, les connaissances que j'ai appris au collège ou au lycée.
Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Attends, réécoute et on en reparle. Soumaya, t'as mentionné quelque chose de si important, apprendre à s'autogérer. Et là, on t'invite à apprendre à apprendre. Il n'y a pas une seule façon d'apprendre les choses, mais c'est ta responsabilité de chercher ce qui fonctionne pour toi. Et pour l'identifier, tu peux premièrement chercher en ligne toutes les méthodologies qui existent, deuxièmement, les tester et troisièmement, adopter celles qui te correspondent. Ce que Soumaya vient de te partager, ça changera ta vie. Parce que dans le monde pro, que tu sois ton propre boss, que tu sois au sein d'une entreprise ou dans une autre structure, même dès ta première expérience pro en stage ou dans le cadre d'un job étudiant, tu dois t'autogérer. Soumaya, maintenant, est-ce qu'on peut plus reparler de tes notes, des matières que tu préférais, des matières que tu préfères un peu moins, les autres choses dont tu te souviens?
Oui, premier trimestre, j'avais eu des encouragements et je me rappelle, c'était voilà, donc c'était bien, mais c'était pas très bien. Mais ensuite, je sais plus, alors, c'était quoi? C'était la mention très bien. Oui, c'était la mention très bien qui était le voilà. Donc non, j'étais une élève. Comme je disais, appliqué, qui avait plutôt de bons résultats. Mais par contre, ce qui est plutôt plus intéressant à dire, c'est mes matières préférées. Alors, j'adorais l'histoire. C'était une de mes matières préférées, c'était l'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. J'ai eu la grande chance aussi au collège d'avoir une excellente professeure de français en quatrième et en troisième, qui m'avait beaucoup inspirée. Qui me poussait énormément de personnes qui avaient déjà peut-être un petit intérêt pour la littérature, pour l'écriture, à vraiment développer cet intérêt encore plus, à chercher. Et je pense que ce que beaucoup de mes camarades et moi, on appréciait beaucoup chez cette professeure, c'était aussi sa capacité à nous rendre curieux. à vraiment faire de la lecture quelque chose de vivant, d'interactif, de questionner, d'avoir un regard critique sur les textes. Et même des élèves qui n'étaient pas forcément très intéressés par les littératures et qui pouvaient trouver ça un peu barbant, qui ressortaient de ces cours toujours impressionnés. Et pourtant, c'était une professeure qui notait très sévèrement. Mais en fait, c'était aussi quelqu'un que je trouvais qui me poussait personnellement à donner le meilleur moi-même et de vraiment d'avoir un grand intérêt pour la matière. Donc ça, c'était un peu le, on va dire, mes meilleurs souvenirs en classe au collège sont liés à ces cours-là.
Tu sais, je me suis toujours demandé si c'est la responsabilité de l'élève de faire preuve de curiosité dans toutes les matières, ou s'il y a une part de responsabilité chez les enseignants, chez les profs, d'initier, de faire naître cette curiosité en nous.
Ah, je pense que la curiosité est est quelque chose qui s'apprend. Dire que c'est la responsabilité de l'élève, bien sûr, d'une certaine mesure, on est responsable de son développement, etc. Mais je dirais, pour un élève, c'est la responsabilité des enseignants et du corps éducatif, et aussi des parents et de l'entourage, on va dire, aider l'élève à développer aussi cette curiosité. Mais aussi, bien sûr, c'est comme toutes les compétences, c'est à chaque individu aussi de chercher à les développer encore plus. Mais je dirais, il y a une responsabilité, bien sûr, très importante de tous ceux qui entourent l'élève, parce que leur rôle, il un bon enseignant, on va dire, c'est un peu leur credo, c'est de pouvoir pousser l'élève à donner le meilleur de lui-même et d'acquérir ces compétences-là.
C'est donc un travail d'équipe. Du coup, si tu es dans une situation où tes profs ne te passionnent pas, ne te soutiennent pas, ne t'encouragent pas, et tes proches, malheureusement, ne peuvent pas te soutenir pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce que tu peux faire? La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton comportement. Ça nous ramène à savoir s'autogérer. Apprendre à apprendre.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord et j'encourage aussi les auditeurs à ne pas être découragés si en face d'eux, l'enseignement ou le style d'enseignement ne leur va pas et qu'il y a d'autres manières d'apprendre aussi, surtout aujourd'hui. Mais aussi, je dirais, je pense qu'il faut aussi relativiser, c'est pas trop tard. On peut ne pas trouver un enseignement au moment où il nous a été donné, ça ne convenait pas, ou alors à ce moment-là, on avait d'autres intérêts, ou alors on n'avait pas encore développé certaines compétences qui sont nécessaires pour pouvoir apprécier ça. Et puis, finalement, plus tard, on va dire, c'est intéressant, et de pouvoir creuser à ce moment-là. C'est jamais trop tard d'apprendre. On apprend toujours dans la vie, et il faut continue à être curieux, à vouloir apprendre. Et il n'y a pas un moment où l'apprentissage dans la vie s'arrête.
Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Merci pour ce rappel si juste, Soumaya. Et je t'invite à noter ça quelque part pour ne pas oublier. Alors, il me reste 2-3 questions sur tes années collège. Tu nous parlais de changement d'environnement socio-économique. As-tu des conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui s'apprêtent à vivre un changement d'environnement, rien que le passage de la primaire au collège ou du collège au lycée, comme tu le mentionnais? Et de ton côté, est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment à l'époque?
Est-ce que j'aurais fait quelque chose différemment? Alors, je ne sais pas si moi, j'aurais fait quelque chose différemment, parce que je pense que finalement, je m'en suis plutôt bien sortie pour être... Enfin, je me suis fait un groupe d'amis, et sans forcément... Je ne pense pas avoir non plus perdu qui j'étais, on va dire, parce que c'était assez... Mais... Je dirais le premier conseil que je donnerais, c'est que quand on est nouveau ou quand on ne comprend pas les codes en fait autour de nous, C'est bien sûr, il faut ça prend du temps d'essayer de comprendre les codes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier qui on est ou alors essayer de se conformer à ce que les autres attendent. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que surtout au collège, on a envie d'appartenir, il y a avoir ce sentiment d'appartenance. Donc il faut, et aussi il y a une recherche de soi, de qui on est, donc une construction de soi. Mais c'est important dans cette construction de soi de vraiment valoriser qui on est, de comprendre quelles sont nos valeurs, d'où on vient, et aussi de ne pas nier ce qui on est. Mais je dirais aussi un conseil pour à l'inverse, parce qu'on est toujours un peu aussi le reflet aussi de l'autre. C'est quand il y a quelqu'un de nouveau, quel que soit dans son école, dans son entreprise, dans son groupe, dans un cercle, quelqu'un qui débarque dans un groupe ou dans un milieu, il est important de l'accueillir et de l'accueillir sans forcément, sans attente. Et donc voilà, donc bien sûr, on va dire que c'est toujours les relations sociales, c'est toujours ça va de pair, donc on est et c'est vraiment quelque chose d'important et c'est important de toujours vérifier qu'on n'est pas en train de stigmatiser l'autre ou de perpétuer un rejet et ça surtout dans les collèges, et c'est très très important de vérifier qu'on fait preuve d'empathie et de bienveillance.
Merci Soumaya. Donc, petit rappel, si tu t'apprêtes à changer d'environnement ou que tu vois quelqu'un qui rejoint ton environnement, Soumaya a mentionné deux éléments. Premièrement, ne te perds pas. Essaie d'avoir ta petite liste de valeurs. Deuxièmement, essaie d'accueillir les personnes comme tu aurais souhaité qu'on t'accueille.
Un joli résumé.
Merci, merci. Et donc, pour terminer sur tes années collège, Soumaya, parlons de tes intérêts, tes activités en dehors des cours. Tu mentionnais la lecture. Est-ce que tu étais entourée de lecteurs ou de lectrices? Est-ce que tu avais d'autres intérêts ou passions en parallèle?
Oui, alors, pour répondre à ta première question sur la lecture, oui, absolument. Ma mère en particulier a toujours beaucoup lu. Et on avait dans le salon une énorme bibliothèque. Donc, même avant même d'apprendre à lire et à écrire, je me rappelais ouvrir les livres. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette curiosité sur ce monde. On m'a aussi beaucoup lu. On m'a pas seulement beaucoup lu enfant, mais on m'a aussi beaucoup raconté des histoires. Au Maroc, il y a encore une grande tradition orale, du conte oral. Et donc, petite, je m'employais toujours surtout des vieilles personnes dans mon entourage qui me racontaient des histoires. Et je trouvais ça toujours très fascinant. Donc, à la fois donc la lecture, donc on me lisait, mais on me racontait des histoires. Donc il y avait toujours cet attrait de la fiction. Et donc dès que j'ai pu lire de manière autonome, j'ai lu. En fait, c'était juste j'ai béni toujours. En fait, c'était un peu une manière de découvrir des mondes. Donc c'est toujours cette envie de découverte qui venait de là. Donc c'est voilà. Donc ça vient de là. Après, je veux dire aux auditeurs, c'est jamais trop tard de lire, et c'est pas non plus un problème de ne pas être un avide lecteur. J'ai plein d'amis qui ont découvert la lecture sur le tard, plus tard, à d'autres moments de leur vie, ou qui ont découvert la lecture par d'autres moyens, non pas forcément par la fiction ou voilà. Donc je voulais juste mettre ce point-là sur le qu'est-ce que je faisais comme activité au collège. Donc je faisais pas mal de natation au collège, que je faisais depuis le primaire parce que j'étais, mes parents, j'avais de l'asthme, donc pour eux c'était important de faire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y avait cette idée que la natation c'était bien quand on était asthmatique, donc il y avait de ça. Mais surtout, un moment très important pour moi qui s'est passé à la fin du collège, j'avais eu la chance d'aller assister à une conférence aux États-Unis, au Connecticut, organisée par le le PNUE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui était une conférence pour les enfants et l'environnement. Donc, la conférence en soi, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, pour être tout à fait honnête, mais lors de cette conférence, j'ai fait une des rencontres qui les plus importantes qui ont eu lieu dans ma vie. Donc, en fait, chaque enfant était assigné à un groupe pour faire des activités, pour sociabiliser. Je pense qu'on faisait aussi des petits projets liés à l'environnement dans ces petits groupes pendant cette semaine-là. Et donc, chaque petit groupe avait un référent ou une référente. Donc, la référente de mon groupe, qui était un peu plus âgée que moi, elle devait avoir 18 ans, qui est toujours une amie. Quelques mois plus tard, elle avait pris toutes nos adresses e-mail. Et puis, en fait, elle faisait une année de césure. Donc, pour une année de césure, c'est quand on décide de prendre une pause dans ses études pour faire autre chose. Ça peut être pour voyager, pour lancer un projet. Donc, elle faisait une année de césure entre la fin de son lycée et le début de l'université et avait décidé de lancer un projet qui s'appelait One World Youth Project, dont le but était de faire des échanges culturels entre les écoles, niveau collège principalement, donc de faire de jumeler des classes. Et que les jumelages de classe puissent monter un projet commun autour des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, les objectifs du millénaire pour le développement, c'était un programme des Nations Unies. Enfin, les Nations Unies dans les années 2000, donc c'est les objectifs du millénaire, avaient fixé des objectifs de développement durable, avec certains indicateurs, donc qui devaient être atteints d'ici 2015. Donc c'était les objectifs. Chaque pair devait choisir un objectif et faire un petit projet dans leur communauté locale lié à cet objectif. Et faire un échange, en fait, avec l'autre. Donc, c'était aussi une manière de découvrir l'autre et d'autres cultures, d'autres manières de voir et de parler là-dessus. Donc, elle avait envoyé un message à plein de... je pense à tous ses contacts pour voir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Et là, je suis aussi très reconnaissante envers ma mère, parce que bien sûr, ma mère lui dit « ça a l'air très intéressant, vas-y, arrêtons-lui, on va essayer de monter quelque chose, vois avec, avec tes petits camarades, s'il y en a qui sont intéressés de faire quelque chose ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai fait partie de cette association de la fin du collège jusqu'à la fin de mon bachelor à l'université, donc la fin de la licence, donc en faisant différents rôles. Et ça a été une des expériences les plus marquantes qui m'ont ouvert beaucoup de portes et qui m'ont permis en fait de m'ouvrir au monde et d'aussi comprendre de m'orienter en fait sur ce que je voulais faire. À la fois en termes professionnels, mais aussi sur ma vie personnelle, de mes choix de vie, en fait. Et de découvrir, enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu aussi pour dire que si j'ai un conseil à donner, c'est si on te... Des fois, il en faut de rien. Donc, un email qui tombe sur une boîte What email, fonce, réponds-y. Et vois où est-ce que ça te mène. Hein. Peut-être que ça peut te mener vers de très, très belles surprises. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais un peu timide, mais aussi, je ne parlais pas très bien anglais. Donc, je me disais, oui, non, mais ça va être en anglais. Je ne parle pas anglais. Et des fois, il faut juste foncer. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi.
Donc, tu as pu bien comprendre que le seul moyen de t'améliorer et d'apprendre quoi que ce soit, c'est de pratiquer. Donc, si comme Soumaya, à l'époque, tu te dis... mais je ne maîtrise pas l'anglais, ou une autre compétence, fonce quand même. Tu apprendras en faisant les choses, en essayant. Et si tu as également l'opportunité de rejoindre des projets similaires à celui de Soumaya, fonce également. Tu apprendras non seulement en compétences, mais tu apprendras des personnes qui vont t'entourer et qui sont également passées par là. Tu apprendras de leurs erreurs, tu apprendras de leurs succès et bien plus. En fait, tu as tout à gagner. Soumaya, est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cette expérience ? Tu as rejoint l'asso quand tu étais au collège. Tu avais à peu près quel âge pour les personnes qui ont des systèmes éducatifs différents du nôtre ? Et tu avais quel rôle dans l'asso ?
J'avais 15 ans, donc c'était vraiment entre collège et lycée, si j'ai bonne mémoire. Et donc, j'avais commencé, en fait, on avait avec une amie, une ancienne amie du primaire, on avait créé un petit groupe dans un club scientifique. Donc, le premier jumelage, on ne l'a pas fait par... donc, c'était un jumelage entre notre petit groupe dans le club et une école en Californie. Donc, ça, c'était la première expérience. Donc, c'était plus en tant que participante. La personne qui avait lancé l'asso était d'ailleurs venue à Rabat chez moi, chez mes parents, pendant une semaine. Ils étaient deux à venir. Et d'ailleurs, c'était aussi la découverte de personnes d'une autre culture. C'était assez intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, on est baigné par les réseaux sociaux, il y a une facilité d'avoir accès en fait à d'autres sociétés. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. Surtout quand il y avait la barrière de la langue. Donc, c'était très chouette d'avoir... deux jeunes américaines à la maison. Et donc, par la suite, donc ça, c'est la première année. Ensuite, on avait décidé d'être des référentes pour une classe, donc dans mon ancienne école primaire, donc pour les sixièmes. On avait créé un club extrascolaire, en fait, qui était jumelé, du coup, aussi avec une école aux États-Unis. Donc là, en fait, notre rôle, c'était d'animer, mon rôle, c'était d'animer les activités, d'assurer le jumelage, de mener de les aider à monter leur projet associatif, qui était, si j'ai bonne mémoire, ils avaient levé des fonds pour une association de protection contre le VIH. Ce qu'ils avaient fait. Et donc ça, c'était l'une des activités. Et l'autre, c'était qu'ils avaient fait une collecte pour un orphelinat. On avait aussi organisé une visite d'un orphelinat à Rabat. Voilà. Et donc ensuite, donc ça c'était plutôt fin collège, début lycée. Ensuite, j'ai été très impliquée plus dans la partie gérance de l'asso. Donc ensuite, j'ai commencé à être responsable du réseau d'écoles participantes au niveau de l'Afrique. Wow. Donc ça, c'était au lycée. Voilà. Et puis ça a continué un peu aussi, comme je disais, au bachelor où j'appuyais. L'association est différente sur différents rôles, sur différentes parties. Ce que je peux conseiller, c'est vraiment aux jeunes, c'est de ne pas forcément se limiter aux cours, de ne pas se limiter à sa vie scolaire. Enfin, moi, l'associatif m'a beaucoup apporté en termes de compétences, et des compétences que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Donc, quand je dis associatif, ce n'est pas forcément de faire des projets comme celui que j'ai fait. Ça peut être passionné de course à pied. Je m'engage dans une association sportive, mais aussi d'essayer de voir si tu peux monter ton propre projet. Et ça peut être un tout petit projet. Ça peut être, par exemple, un petit projet de collecte de déchets dans mon quartier, ça peut être un projet de recyclage, enfin, ça peut être n'importe quel petit projet au niveau de ma communauté. Ça apporte énormément de compétences qui sont très demandées par la suite, mais aussi de liens humains, de liens d'engagement social, d'engagement dans ma communauté, et de créer vraiment un lien avec sa communauté directe. C'était pour moi, à 15-16 ans, très inspirant de faire la découverte de différentes associations dans ma ville, de voir ce qui était fait et aussi de pouvoir mieux comprendre un peu les problématiques sociales et économiques de ma communauté directe. Donc voilà, je t'incite à essayer de voir ce qui se fait. Il y a énormément de choses qui se font au niveau des locales et ça apporte une richesse énorme. Donc voilà, c'est bien d'être un bon petit élève et d'avoir de bonnes notes à l'école, mais il y a d'autres manières d'apprendre et d'autres manières de se construire.
Bon, il n'y a pas doute que maintenant, tu te sens hyper motivée pour faire exactement ce que Soumaïa vient de te conseiller de faire, de ne pas te limiter au cours. Mais tu te dis par où commencer. Donc, mon conseil, c'est de te rendre dans ta mairie et de leur demander en fait la liste des assos qu'elles ont. Et là, tu auras accès à toutes les assos, donc qu'elles soient sportives, engagées pour l'environnement ou tout autre secteur. Pour clôturer le chapitre collège, as-tu un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent, Soumaïa?
Je dirais le premier conseil que je donnerais, c'est de profiter, c'est-à-dire d'essayer de vraiment. Il ne faut pas apprendre pour avoir des bonnes notes. Essaye d'apprendre pour te construire, pour comprendre le monde autour de toi, pour gagner des compétences. Donc vraiment, et cette démarche d'apprentissage pour l'apprentissage et les notes. Suivront ou pas. Peut-être que sur certaines matières, ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver là où tu veux, mais c'est OK. Le collège, c'est aussi un moment d'apprentissage. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est plutôt d'avoir un rapport à l'apprentissage qui est fun, en fait, d'essayer de trouver ça de manière ludique. Et le deuxième, c'est... de trouver un équilibre entre la vie, on va dire, collégienne qui se passe au sein du collège, donc les cours, les amis, machin chose, et de s'ouvrir à d'autres choses aussi également à l'extérieur. Et c'est tout à fait OK de tenter plein de choses différentes et finalement de trouver sa petite voix ou ses voix doucement et en prenant le temps. Voilà.
Merci Soumaïa. Bon, j'espère que tu as pris des notes et si tu n'en as pas pris, je t'invite à réécouter cette bonne demi-heure qui est remplie de conseils. Soumaïa, maintenant, parlons de tes années lycée. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, du type d'élève que tu étais? Est-ce que tu savais, par exemple, ce que tu voulais exactement faire après le lycée?
Au lycée, en fait, dès la seconde, et aussi par les voyages que je faisais dans le cadre associatif, et aussi mon intérêt pour l'histoire, pour la géographie aussi, pour en fait le monde. Je commençais à avoir un très grand intérêt pour le monde et comprendre le monde. Et donc, en seconde, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était je voulais faire des Sciences Po. Donc, je commençais à avoir un objectif beaucoup plus clair. Assez très ambitieux et j'étais assez déterminée. Voilà, donc mes années de lycée, c'était des années très, très studieuses. Je dirais, là, on y réfléchissant, j'aurais peut-être aimé pouvoir avoir quelque chose, d'avoir des années plus équilibrées. Je pense que je poussais un petit peu trop sur les études. J'étais dans un lycée aussi qui est très compétitif, encore un lycée où l'excellence était très, très valorisée. Et donc, je baignais dans ce monde un peu compétitif, où il fallait se donner à fond. Et je dis souvent, j'ai fait un bac S, donc... option tout comprise. Donc, j'ai fait un bac S, mais avec option latin. J'avais LV1, LV2 et je faisais ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe toujours, l'option internationale du baccalauréat. C'est-à-dire que, étant dans un lycée français, mais au Maroc, c'était important pour moi de continuer d'avoir un cursus aussi en arabe et d'apprendre l'histoire-géographie du Maroc. Donc, j'avais des... C'est-à-dire que l'arabe n'était pas ma LV1, mais en fait, c'était j'avais autant de cours d'arabe que de français. Donc, j'avais des cours de français et d'arabe, donc de la littérature arabe et de la littérature française. Et pareil, j'avais les cours d'histoire-géographie du programme français et des cours d'histoire-géographie sur le Maroc. Donc déjà, ça faisait un volume horaire énorme. En plus, j'avais décidé de garder le latin. Donc voilà, donc je faisais un bac S toute option. Je ne le conseille pas, je ne te le conseille pas. mais c'est tout ça pour dire que ça limitait en fait mes capacités à faire du parascolaire. Donc après, comme je disais, je continuais mon engagement associatif, donc je continuais à être beaucoup engagée sur l'asso. Et donc entre l'asso et les études, je n'avais pas forcément le temps de faire du sport, d'être dans une association sportive ou d'autres activités à côté.
Waouh. Effectivement, ça a l'air très très intense. Tu ne le conseilles pas, mais ton engagement associatif plus l'excellence académique, c'est ce qui t'a permis d'intégrer Sciences Po.
Oui, alors Sciences Po est une école très sélective, comme beaucoup de grandes écoles françaises. Donc, bien sûr, c'était très clair pour moi qu'il fallait que je me démarque. Donc ça voulait dire avoir de très très bonnes notes dans toutes les matières, et en particulier pour Sciences Po. Donc c'était en français, en histoire géographie, en fait toutes les matières qui sont liées un peu au cursus que l'on peut avoir à Sciences Po, les langues, donc il y avait ça. Et comme j'avais fait le choix de garder, on m'a aussi, on va dire, mes professeurs m'ont énormément encouragé de faire, même si je savais que je voulais faire Sciences Po et que j'avais une appétence pour les matières littéraires, on m'a énormément conseillé, et j'ai suivi ce conseil, je ne le regrette aucunement, de garder un cursus scientifique. Ce qui voulait dire que, en fait, pour avoir mon bac mention, il fallait que j'aie de très très bonnes notes aussi dans les matières scientifiques. Mon engagement associatif aussi a joué énormément, et aussi le dernier point, c'est que j'avais un réel intérêt en fait pour les matières qui étaient enseignées à Sciences Po. Donc pour en fait la partie préparation de l'entrée à Sciences Po, pour moi c'était un réel plaisir. Lire l'actualité, me renseigner, etc. Je trouvais ça mais tellement intéressant que c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir faire ça. Bien sûr, il faut le faire, et donc c'était une charge de travail énorme, mais comme c'est ce qui m'intéressait, et ça jouait un peu là-dessus, c'était un plaisir aussi.
Merci Soumaya. Et quel conseil as-tu pour l'élève qui t'écoute actuellement et qui souhaite maintenant s'engager associativement et qui souhaite également viser l'excellence? Comment tout gérer?
La première chose, je dirais, c'est d'être organisé et d'être régulier. Je me rappelle, c'était tous les soirs que j'ai des devoirs ou que je n'ai pas de devoirs. Bon, j'avais souvent beaucoup de devoirs. Donc, c'était vraiment d'être très organisé. C'est-à-dire que si je sais que j'ai un DS de maths dans 2 semaines, je n'attendais pas le week-end d'avant ou les jours d'avant pour réviser mon DS. Et je ne révisais pas, en fait, mon DS. C'est-à-dire que, disons, on commençait une nouvelle unité de cours. On va commencer à prendre les limites dès le début. Donc, on commence le cours. Je vais systématiquement, tous les soirs, faire des exercices au fur et à mesure. Je bâtis, en fait, ma connaissance, mes compétences, mais au fur et à mesure, menant au DS. Voilà, donc c'était toujours d'être très régulier, et j'ai appliqué ce que j'avais déjà commencé à faire au collège, c'était d'organiser mes temps d'apprentissage, de savoir tous les jours ce que j'allais faire, pareil pendant les vacances, et après aussi d'apprendre à demander de l'aide là où on en a besoin. Dans mon cas, je me rappelle, il y avait une année où j'avais eu. Il y avait deux choses. Une année, j'avais eu une enseignante de collège, je trouve, d'espagnol où je n'accrochais pas avec la méthodologie qu'elle apportait. Donc, je savais qu'il fallait que je puisse apprendre en fait, l'espagnol de moi-même. Donc, pendant les vacances scolaires, entre cette année-là et l'année suivante, j'avais essayé de prendre des cours d'espagnol. Et pareil, alors et ça, c'était l'un de mes grands regrets parce que la philosophie à l'époque, on n'en avait que pendant une année et j'avais eu un très mauvais enseignant de philo, en tout cas pour moi, pour même ce que je recherchais. Et pareil, donc j'ai pris des cours de philosophie. Alors j'ai eu la chance, encore une fois, que mes parents pouvaient se permettre de m'appuyer sur des cours supplémentaires, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément la manière dont tout le monde va apprendre. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont gratuites et facilement accessibles en ligne et qui permettent d'apprendre. Je dirais, par exemple, pour les langues, il y a Duolingo, il y a aussi plein de vidéos sur YouTube donc, d'apprentissage. On peut aussi apprendre en autodidacte en écoutant ça dépend des centres d'intérêt, mais d'allier un centre d'intérêt avec une langue, c'est aussi faisable. Pareil, si tu as des lacunes en mathématiques ou une envie de pousser l'apprentissage en mathématiques, il y a plein, encore une fois, d'outils sur Internet, de sites, de Khan Academy, pour en citer qu'un, mais il y a énormément d'outils d'apprentissage. Donc, ne te limite pas. Et ce n'est pas parce que tu as un enseignement à l'école qui ne t'apporte pas que c'est une fatalité. Il y a d'autres manières d'apprendre. Et comme je le disais aussi au début, c'est jamais trop tard. Tu peux peut-être ne pas avoir appris, je sais pas, trouver que tes cours de maths, ils étaient très barbants et que tu n'as pas pu accrocher à l'apprentissage des mathématiques au collège et au lycée, et que peut-être que plus tard dans la vie, dans ta vie professionnelle, tu vas être amené à faire des maths, et ce n'est pas trop tard d'essayer d'apprendre des maths, et peut-être qu'à ce moment-là, tu seras finalement prêt et tu vas en voir l'utilité que tu ne voyais pas dans le cadre scolaire. Donc voilà, ça c'est. Je sais pas, je me rappelle plus c'était quoi ta question, mais j'espère que j'y ai répondu.
Tu as répondu, merci beaucoup Soumaya. Donc, tu as mentionné deux éléments et c'était pour donner des conseils aux jeunes qui souhaitent s'engager associativement et viser l'excellence académique. Donc, premièrement, ce que tu as mentionné, c'est d'être organisé et régulier. Deuxièmement, d'apprendre à demander de l'aide. Et on ne le dira jamais assez, si la méthodologie du professeur, de l'enseignant ne te correspond pas, cherche des alternatives. Si financièrement tu peux te le permettre, prendre des cours en parallèle, fonce. Et si tu peux pas, on dit merci à l'intelligence artificielle, aux cours en ligne et aux créateurs de contenu sur YouTube qui t'aident à mieux comprendre les sujets. Et en fait, tu as finalement touché un troisième point, c'est d'avoir cette curiosité d'apprendre et toujours trouver des solutions pour qu'un sujet soit maîtrisé. Donc oui, tu as répondu à la question. Donc, continuons sur tes années lycée. Les conseils que tu as reçus du corps enseignant, est-ce qu'on t'a guidé sur ton choix post-bac ou ton choix de filière? Ou encore comment mieux approcher tes cours?
Alors, je reviens un peu sur l'orientation parce que ça, c'était vraiment un moment marquant pour moi. Mon prof principal de seconde, qui était mon prof de physique-chimie, au moment des rencontres parents-élèves, en seconde, bien sûr, c'est tout le questionnement. À l'époque, maintenant, il y a peut-être un changement de la manière dont c'est organisé, mais à l'époque, c'était tout le questionnement de l'orientation sur les filières, qui avaient trois filières en bac général, S, E, S et L. Et j'hésitais énormément entre les trois. Parce que, comme je savais que je voulais faire Sciences Po, typiquement, il y a un bac ES ou même L aurait pu être adapté. J'avais une, une appétence, une envie de, pour les matières plus, on va dire, littéraires et sciences sociales. Mais je me débrouillais très bien dans les matières scientifiques. Et dans mon lycée, la voie royale, c'était les filles RS, parce que beaucoup des élèves qui avaient les plus de facilité au collège-lycée visaient plus les grandes prépas scientifiques et ensuite les écoles d'ingénieurs ou alors les prépas éco pour faire ensuite les grandes écoles de commerce. Donc c'était un peu ça on va dire le Graal. Là, il y avait très peu de personnes dans mon lycée qui s'orientaient plus vers des études type Sciences Po. Parmi les élèves qui comme moi s'en sortaient pas mal dans les matières. Et mon professeur, mon enseignant de physique chimie, me dit à ma mère et à moi, après qu'on lui explique un peu mes hésitations et mes questionnements existentiels sur l'avenir, conseillé de faire un bac S pour ne pas me fermer une voie. Son raisonnement, c'est que en faisant un bac S, et en ayant l'appétence que j'avais, l'intérêt de faire sur les autres matières, en fait, je ne me fermais pas une voie si je décidais par la suite de faire un parcours plus scientifique. Parce que, en fait, je continuerais à faire des maths, de la physique, chimie, au niveau qui pourrait être demandé sur un parcours plus scientifique. Alors, je ne dis pas à l'auditeur ou à l'auditrice qu'il faut absolument faire des études scientifiques, ce n'est pas mon propos. Mais je pense que le conseil que je donnerais, c'est quand tu es au lycée, tu peux être très sûr de toi sur ce que tu veux faire après, mais c'est très important de ne pas se fermer des voies et de réfléchir, de garder ses options. Et je peux dire aujourd'hui, avec le recul, que je suis très contente d'avoir fait un bac S parce qu'aujourd'hui, ça permet et de pouvoir travailler sur des... j'ai fait ensuite un master en économie, très quantitatif, un double diplôme entre Sciences Po et l'École Polytechnique. Je suis contente d'avoir eu cette possibilité et je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas eu un parcours scientifique au lycée. Même si, sur le coup, au lycée, je voulais absolument faire des études qui étaient beaucoup plus orientées sur le social, ou en tout cas qui étaient beaucoup plus orientées sciences poétiques, enfin beaucoup plus littéraires en soi. Donc voilà, donc ce point-là qui a été un point qui m'a beaucoup marqué et sur lequel je reviens souvent aujourd'hui, en disant que je suis très reconnaissante à ce professeur.
Ne pas te fermer deux fois. Et je te dirai pas non plus de faire des études spécifiques, mais tu as sûrement écouté l'épisode que j'ai partagé sur les opportunités de 2030. Elles sont encore inconnues. En fait, dans l'épisode, je t'explique qu'il y a un certain nombre de compétences que tu dois avoir. Donc, je te les mentionne également. Et c'est des informations que j'ai trouvées dans des recherches conduites par l'OCDE notamment, le World Economic Forum ou encore l'Union Européenne. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'en fait, ces compétences, elles risquent de changer à l'horizon 2050. Bon, je veux pas te faire flipper, mais il est toujours super important que tu ne fermes pas de porte. Que tu restes toujours curieux, curieuse, et prête à apprendre de nouvelles choses demain, l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Idéalement, si tu peux aligner ton parcours académique aux compétences qui sont déjà cherchées, ça te permet d'avoir des fondations solides. Mais c'est ton choix. Tant que tu t'engages à continuellement apprendre.
Tout à fait.
Merci Soumaya. Et est-ce que tu as des derniers conseils pour lycéens, lycéennes, en touchant peut-être ce que tu aurais fait différemment à l'époque ?
Le seul conseil que je te donnerais, c'est aussi peut-être un conseil de ne pas faire ce que j'ai fait, dans le sens où les années lycée sont aussi des années où il y a d'autres manières d'apprendre que la manière académique et scolaire, et que en fait, en ayant trop d'options ça me laissait pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc, par exemple, je ne faisais plus de natation, je ne faisais plus beaucoup de sport, que j'ai repris par la suite, mais sur le coup, je pense qu'il faut quand même, il faut que tu gardes un équilibre et te dire que les cours et l'apprentissage académique est très important, mais qu'il y a d'autres manières d'apprendre. Et qu'il y a d'autres choses à apprendre dans la vie que tu ne vas pas apprendre en ouvrant un cours. Donc, par exemple, dans mon cas, j'aurais peut-être dû abandonner le latin et pas être têtu et garder toutes les options possibles et imaginables. Non pas pour, ce n'est pas de dire que l'apprentissage du latin n'est pas quelque chose d'important, mais dans mon cas, il aurait fallu que je fasse des compromis et ce compromis-là aurait pu me dégager du temps. Du temps aussi, juste pour me reposer aussi.
Et le sommeil et le repos sont si importants, et j'en parlerai, je pense, un peu plus en détail dans un autre épisode, sur l'impact du sommeil sur l'apprentissage et l'impact du manque de sommeil sur l'apprentissage. Et si t'es super curieuse, et tu veux en savoir plus dès maintenant, je t'invite à aller sur le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode, qui t'envoie vers un séminaire qui a eu lieu au Collège de France, donc qui se trouve à Paris, sur la thématique suivante, le sommeil et la consolidation des apprentissages de l'enfant à la personne âgée, par professeur Stéphanie Mazza. Ça t'explique l'impact du sommeil sur ton apprentissage, tout simplement. Fermons maintenant le chapitre lycée pour passer aux études supérieures, donc à ton expérience post-bac. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord pourquoi tu as choisi Sciences Po?
Parce que, comme je le disais, en fait, j'avais un... En fait, je commençais à comprendre pourquoi j'aimais tant les cours d'histoire-géographie. Et j'aimais tant les cours d'histoire-géographie, et j'aimais tant aussi lire, parce que ça me donnait une ouverture sur le monde, une clé de lecture du monde. Et donc, je cherchais des études qui me permettraient d'avoir, en fait, d'affiner une compréhension du monde. Quand je dis une compréhension du monde, c'est-à-dire une compréhension des sociétés, une compréhension des interactions humaines, que ce soit au niveau des États, comment les États interagissent, donc que ce soit dans le passé par l'histoire ou actuellement, ce qui se passe au niveau d'une société, comment les sociétés sont structurées, ce qui fait donc un peu les grands questionnements sur le monde. Donc, c'était pour moi, Sciences Po, quand je lisais ce que les élèves de Sciences Po apprenaient, j'étais émerveillée parce que je me disais, mais c'est génial, ça veut dire qu'une fois que je suis dans cette école-là, ben en fait, tous les cours que je vais faire, c'est des cours qui sont passionnants. Donc, c'était vraiment ce désir-là.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton choix et ce que tu as étudié?
Alors, à Sciences Po, j'ai fait au niveau du. Donc, à Sciences Po, donc, c'est un parcours qui peut se faire en 3 ans pour avoir le bachelor du collège universitaire de Sciences Po, ou en 5 ans si on veut avoir un des masters de Sciences Po. Mais tu peux tout à fait arrêter, faire autre chose pour le master une fois que tu as fini tes 3 ans à Sciences Po. Et donc, le collège universitaire de Sciences Po, donc, il y a le campus de Paris. Que peut-être tu connais, mais il y a aussi d'autres campus qu'on appelle les campus délocalisés, qui sont des campus où l'enseignement est on va dire, une focalisation sur une aire géographique donnée. Il y a un campus, le campus du Havre, où en fait, là, on va avoir des cours qui vont être beaucoup plus focalisés sur l'Asie. Un campus qui va avoir plus sur l'Allemagne, sur un campus franco-allemand, un autre sur l'Amérique latine, à Poitiers, Dijon pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et puis moi, j'ai intégré le campus de Menton, bon, au sud de la France, qui est le campus Méditerranée-Moyen-Orient. Donc, beaucoup plus des cours sur le bassin méditerranéen et en particulier sur le Moyen-Orient, ce qui pour moi allait un peu de soi, car étant marocaine, Donc, on avait au collège universitaire, je ne sais plus si c'est encore le cas, donc ça, il faut. À l'époque, on avait des cours communs. Donc, c'était, on avait, quel que soit le campus où on était, il y avait certains cours qui étaient communs aux trois cursus, aux différents campus. Et ensuite, il y avait des cours de plus de spécialisation qui étaient propres à chaque campus. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est juste pour expliquer un peu. Donc, j'ai passé 2 ans à Menton et à Sciences Po, à la fin du collège universitaire. La troisième année se fait à l'étranger, donc en échange. Comme je disais, en fait, les cours à Sciences Po, surtout en première année, c'était en fait, on va dire pour moi, le cursus rêvé. C'est-à-dire, tout à coup, je n'avais que des matières qui me passionnaient. Donc, j'avais adoré mes cours de. C'est un cours d'introduction au droit constitutionnel, mais c'est un cours sur les différents systèmes politiques. Et donc, de comprendre un peu quels sont les différents systèmes politiques qui existent, enfin, les différents types de démocratie, l'organisation étatique, finalement, et de comprendre aussi le système constitutionnel français. Donc, ça, c'était aussi cool. D'approfondir les cours d'histoire, d'avoir aussi une approche historique, mais beaucoup plus poussée. Ça aussi, c'était vraiment super. C'était mes premiers cours d'éco aussi. Et puis aussi, j'ai eu des cours très intéressants sur l'histoire du Maghreb, sur l'histoire du Moyen-Orient, des cours de sciences politiques sur le Moyen-Orient, des cours de relations internationales aussi, plus globales, d'introduction à la relation internationale, un cours d'histoire et de droit des États aussi qui était très passionnant. Donc voilà, donc c'était tout un foisonnement de cours qui me passionnait. Donc, sans forcément avoir une finalité en me disant « Ah, je fais ce cours parce que je veux être ça ». Donc, c'était vraiment pas une. Je visais pas à ce moment-là un métier en particulier. C'était vraiment plus une envie d'apprendre. Et je trouve que c'est quand même un privilège de pouvoir se dire, en fait, là, j'apprends pour apprendre parce que je trouve ça passionnant. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes cours à Sciences Po. Et puis, c'était aussi l'apprentissage de la vie universitaire avec les assos. Je faisais partie pendant mes années de collège d'une association qui s'appelle Babel, dont j'étais coprésidente en deuxième année à Sciences Po, qui en fait est une association qui existe toujours d'ailleurs, qui chaque année, ils choisissent un pays de la région, Méditerranée, Moyen-Orient. Et organise des voyages d'études pour les élèves de Sciences Po sur cette thématique du pays. Donc, les élèves choisissent un thème de recherche lié à ce pays. On organise un voyage d'études donc, qui permet aux élèves de faire des entretiens, de rassembler des données et ensuite d'écrire leur mémoire de recherche liée à ce pays et de pouvoir le présenter à Sciences Po, à un corps enseignant sur le campus. Donc ça aussi, c'était génial parce que par cette association, c'était l'apprentissage un peu des compétences d'organisation, de gestion, de leadership, de communication, de fundraising, donc de levée de fonds, donc plein de compétences très utiles que tu ne peux pas apprendre simplement par ton cursus académique. Il te faut un engagement autre, par d'autres projets, par un apprentissage par projet finalement, et que j'avais trouvé sublime. Aussi, la découverte de nouveaux pays. En première année, on avait la thématique, c'était sur les pays du Golfe. Donc, on avait organisé un voyage, donc c'était le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis. Non, pardon, excuse-moi. C'était le Koweït, le Qatar et le Bahreïn. Et la deuxième année, c'était le Liban. Donc, quand j'étais coprésidente, on avait organisé. Voilà. Donc, c'était ça. Aussi, ce qui était très chouette pendant mes années de collège universitaire à Sciences Po, c'était aussi, encore une fois, cette découverte de l'autre. C'est-à-dire que j'étais entourée dans mon campus d'élèves qui venaient de partout dans le monde et en particulier de partout dans la région Méditerranée-Moyen-Orient. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup de personnes du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Et c'était vraiment un peu cette, on va dire, une découverte d'une certaine identité arabe. Donc, de pouvoir me dire, ah ben bah, tiens, en fait, je peux comprendre quelqu'un qui vient du Liban, de Syrie, de comprendre un peu plus ce qu'on a en commun, ce qu'on n'a pas en commun, donc vraiment de mieux comprendre un peu une sphère géographique avec un sentiment d'appartenance à cette sphère géographique-là. Voilà, donc ça c'était aussi. Et ce que je disais, c'est que la Soumaïa enfant rêvait d'une vie pleine, une vie de découverte, une vie de. Et donc voilà, c'était pour moi un peu. J'y arrivais finalement. C'était à la fois par l'association, quand j'étais au lycée-collège, qui m'avait fait permis de voyager beaucoup, en particulier aux États-Unis, mais aussi au Ghana. Et puis, finalement, à Sciences Po, il y avait aussi cette continuité d'ouverture sur aussi un autre monde. J'ignorais un peu avant.
Et est-ce que durant ces années au collège universitaire, tu savais exactement ce que tu voulais faire ? As-tu fait des stages qui confirmaient ou non ta décision ?
Alors non, on va dire que le passage du collège universitaire au master a été vraiment le moment de questionnement parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient et je n'avais pas quelque chose en particulier où je me disais « ça, c'est ce que j'ai envie de faire ». J'avais des amis qui étaient très clairs sur ce qu'ils voulaient faire après la fin de leurs études, ce qui n'était pas mon cas. Je ne savais pas ce que je voulais faire en particulier. C'est un camarade de la promo au-dessus, dont j'étais très proche, qui m'avait conseillé de faire un master en économie. Et je ne me rappelle même plus pourquoi. Si tu me demandes là aujourd'hui, quel était le raisonnement ou pourquoi j'avais choisi ça ? Parce que j'hésitais entre des masters à la fois à Sciences Po ou à la LSE, qui est la London School of Economics à Londres. Donc, c'était plus des masters sur la gouvernance des organisations publiques. Ça m'intéressait aussi, toutes ces problématiques-là. Et puis, oui, les problématiques de développement m'intéressaient aussi beaucoup, hein, de développement humain. Donc, je te rappelle ce que je te disais plus tôt sur mon engagement associatif. Donc, c'était aussi lié à ça, donc de creuser un peu plus les problématiques de développement. Mais j'hésitais. Je ne savais pas trop... où aller entre ces différents masters. J'avais postulé donc des masters à la London School of Economics, plus sur la gouvernance et la gestion, et à Sciences Po, donc à ce master qui est un double master entre Sciences Po, l'École Polytechnique et l'ENSAE, qui est une autre grande école sur les statistiques, qui était beaucoup plus sur accès économie et politique publique, avec une composante quantitative plus importante que ce que j'aurais pu avoir dans un master à Sciences Po. Et finalement, en fait, pour être tout à fait franche, ce qui a été déterminant, c'était le coût. C'était qu'à Sciences Po, j'étais boursière. J'avais une bourse que je n'avais pas à la LSI. Et donc, de faire le master à la LSI, j'aurais dû prendre un prêt bancaire. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment ça qui a décidé mon choix. Donc, c'était vraiment une réflexion très financière. Lié un peu aussi aux moyens de ce que... Voilà.
Donc, c'est grâce aux introductions que tu as pu avoir que tu as pu finalement écouter les conseils de ton ami et suivre ce parcours.
Alors, j'ai eu des cours d'économie au collège universitaire. Donc, on avait bien sûr un cours de micro et de macro, mais qui était quand même, on va dire, pas très quantitatif. C'est-à-dire, au collège universitaire de Sciences Po, ça a changé depuis. Je sais qu'ils ont introduit beaucoup plus de maths, mais à l'époque, comme c'était en fait, il y a des élèves qui viennent de filières littéraires, des élèves qui viennent de différentes filières, donc en fait, il n'y avait pas la partie mathématique ou le langage mathématique ou statistique n'était pas très poussé. On ne faisait pas de stats au collège universitaire. Donc oui, en ça, c'était un retour. Et je me rappelle, en fait, il fallait, pendant l'été, donc on avait un bootcamp de maths, donc des cours de maths intensifs avant de pouvoir commencer les cours. Et j'avais l'impression qu'une partie de mon cerveau qui avait été mise en veille pendant 3 ans se remettait en marche. Et voilà, donc de refaire des intégrales et de revoir les limites et du factoriel, c'était... j'en avais pas fait, oui, depuis le lycée. Donc, c'était... Donc ça, ça avait été... C'était la première fois de donc ce master où j'étais, on va dire, en difficulté, hein, dans le sens où les cours, certains cours étaient plus compliqués parce que, ben, en fait, ça demandait des fondements que je n'avais pas forcément eu pendant mon collège universitaire. Et comme au master, ben, en fait, il y a des élèves, ben, il y avait les élèves de Polytechnique, il y avait aussi les élèves de l'ENSAE, il y avait aussi des élèves qui venaient d'autres pays et qui ont fait vraiment de l'éco beaucoup plus poussé au niveau du bachelor. Alors que bon, ben, moi, j'avais eu mes petits cours d'introduction, mais t'as plus. Donc, c'était, on va dire que j'avais un gap à combler plus important.
Et est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent de plutôt faire des études qui leur permettent d'avoir des compétences tangibles ? Par là, j'entends des compétences techniques, en sciences ou un métier spécifique. À l'opposé, tu sais, d'un master en communication, par exemple.
Alors, je ne sais pas si je conseille ou pas. Dans mon cas, oui, c'était quelque chose qui est très important parce qu'encore une fois, ça me permet aujourd'hui d'avoir différentes cordes à mon arc. Je dirais, j'approcherais la chose différemment. C'est de réfléchir, est-ce que ce que je fais rajoute à mes compétences ou en fait, je suis en train de faire exactement la même chose que ce que je faisais avant. Je dirais que pouvoir avoir une casquette aussi quantitative que qualitative te permet, dans mon cas, ça me permet ça m'ouvre un éventail de possibilités au lieu de le restreindre. Hein, donc, je dirais, c'est plus dans ce sens-là que je réfléchirais. Et la manière dont ça se... Pour quelqu'un d'autre, ça peut être différent. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait des études... je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a fait des études plutôt scientifiques. En fait, ce serait peut-être aussi bien de voir si s'il peut en parallèle ou après faire l'apprentissage d'une langue ou apprendre. Donc, c'est plus de réfléchir à qu'est-ce que je peux rajouter à mon éventail de compétences plutôt que de rester vraiment de très focalisé sur quelque chose de très limité ou limitant.
Et comment tu fais pour gagner confiance en toi ? Comment tu fais pour te dire, bah écoute, je suis totalement capable de co-présider mon asso, je suis totalement capable de quitter le Maroc pour la France, je suis totalement capable de faire un autre échange à l'international. Comment tu fais pour combattre ces doutes, combattre cette voix intérieure qui dit non mais le fais pas, et ensuite tu as toute cette liste de choses qui te passent en tête et qui te font peur ?
Alors, je dirais déjà, en fait, il faut... pour les gens qui nous écoutent, c'est normal de douter. C'est normal de quand on débarque dans un pays dont on connaît pas qu'on connaît pas, on va pas forcément se sentir à l'aise. Tu vas pas forcément comprendre comment les choses fonctionnent et c'est tout à fait ok. Il faut se dire que ben en fait. C'est aussi un apprentissage et que ça prend du temps de s'intégrer. Donc, je dirais, c'est au-delà de la confiance en soi, c'est il faut être OK avec le fait de ne pas forcément avoir toutes les clés dès le départ. Et aussi de se dire qu'en fait, ce que ça va t'apporter est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus important que les difficultés que tu pourras rencontrer au début. Et que tu vas aussi énormément apprendre de ces difficultés-là. Et je conseillerais, en fait, aux auditeurs, si tu as une opportunité, crée-toi des opportunités qui te sortent de ta zone de confort. Et ça peut être très simple, hein, ça peut être, tu peux choisir d'aller suivre un cursus universitaire dans une autre ville. Donc, ce n'est pas forcément à l'étranger, mais juste dans même si tu es en France, d'aller étudier dans une autre ville, ça va t'apporter énormément en indépendance parce que tu dois te gérer, découvrir un nouveau lieu. Mais oui, si tu as l'opportunité de voyager, d'aller à l'étranger, c'est aussi très, très enrichissant de pouvoir vivre ailleurs. Et ce n'est pas pareil que de faire des vacances ailleurs, que de vivre ailleurs. Juste ce petit point-là.
Parlons maintenant de ton insertion professionnelle. Donc, tu as choisi de rejoindre l'OCDE. Est-ce que tu peux nous présenter la structure, ce que tu fais, ton rôle, tes responsabilités, et un peu plus tard, on parlera des recherches sur lesquelles tu as travaillé.
Alors après, juste pour rassurer les auditeurs, en fait, la recherche d'un emploi, surtout quand on finit ses études, ben en fait, il y a aussi beaucoup de chances ou de différentes opportunités qui peuvent se présenter. Je veux dire, j'ai choisi l'OCDE, oui, mais j'ai aussi postulé à beaucoup d'autres choses et des choses qui ne sont pas forcément liées à la même chose. Voilà, donc. De mon engagement associatif, j'avais aussi fait, quand j'étais en échange universitaire, j'avais travaillé dans une école à Washington, D.C. J'étais très intéressée par toute la partie éducation. Donc, je savais que c'était des thématiques qui m'intéressaient. Donc, j'avais vu une opportunité de stage à la direction d'éducation de l'OCDE et j'y avais postulé. Et en y postulant, en me renseignant sur ce que faisait cette direction-là, les différentes politiques sur lesquelles ils travaillaient, j'avais trouvé ça très fascinant. Je savais que c'était quelque chose que le stage pourrait m'apporter énormément. Donc voilà, donc j'ai intégré d'abord l'OCDE en tant que stagiaire. Et très vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Sur quoi je travaillais, les collègues avec lesquels je travaillais, j'aimais énormément y être et donc je m'étais fixé que pour objectif d'explorer la possibilité de continuer à l'OCDE. J'ai essayé vers la fin de mon stage, j'ai approché ma maître de stage, j'ai dit voilà, j'aime beaucoup ce que je fais, j'apprends énormément et j'aimerais pouvoir continuer s'il y a des opportunités dans la direction. Sur quoi le projet arrivait à terme, donc il n'y avait pas de budget sur son projet, mais elle a envoyé mon CV avec une petite recommandation, un email en disant que voilà, elle aurait bien aimé pouvoir me garder, mais que voilà, à d'autres chefs de projet qui pouvaient recruter. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier poste à l'OCDE. Mais juste pour dire aussi, donc dans mon cas, c'était une chance parce que, en fait, mon stage a débouché sur un emploi, mais ce que je veux préciser, c'est que les stages, c'est aussi l'opportunité de voir si ça te plaît ou pas. Donc, c'est tout à fait OK de se tromper ou de finalement se dire, en fait, non, ça ne va pas du tout, c'est pas ça, c'est pas là où je veux aller. Donc, il n'y a pas de finalité dans la chose, il n'y a pas de. On va dire. Et c'est peut-être ça ce qu'il faut comprendre aussi sur le milieu professionnel, c'est que contrairement au milieu scolaire où tu as des voies assez cadrées, le milieu professionnel, en fait, c'est plein de. Alors, en anglais, on dit trial and error. C'est beaucoup. Il faut essayer différentes choses et voir. Ce qui me correspond, ce qui me correspond peut-être un peu moins, de construire sa propre voie. Et c'est génial de pouvoir avoir cette opportunité-là de construction pas à pas. Et je dirais le dernier conseil que je dirais pour les jeunes qui s'insèrent dans le milieu du travail, c'est de tout le temps se questionner, se remettre en cause. Donc de voir est-ce que ce que je fais là me plaît? Est-ce que ça me permet d'aller vers où j'ai envie? Est-ce que ça me permet de construire et de gagner en compétences pour aller là où j'ai envie? Donc, il y a plein de questionnements qu'il faut se poser tout au long de sa carrière professionnelle. Et de aussi, pardon, et j'ai oublié une question qui est très importante. Est-ce que ce que je fais professionnellement me correspond aussi à ma vie personnelle? Est-ce que ça te permet de mener tes projets personnels à bien? Et ça, c'est très, très important.
Et je reprendrai également ce que tu disais au début. Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Ce qui est important pour toi? Est-ce que ça s'aligne avec tous ces aimants-là? Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu passeras autant de temps au travail que tu passes actuellement au collège, au lycée, à la fac. Donc c'est pourquoi j'insiste avec tous ces épisodes du podcast pour t'inspirer à donner tout ce que tu as, pour que tu puisses en fait ensuite faire ces choix qui sont alignés avec tous ces éléments. Soumaya, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, ton rôle, tes responsabilités au sein de l'OCDE?
Très bien. Donc, ce qu'il faut, c'est juste peut-être pour placer pour ceux qui ne connaissent pas l'OCDE. Donc, l'OCDE, comme je disais, c'est une organisation internationale. Il y a 38 pays membres. Donc, grosso modo, les pays, vraiment grosso modo, schématiquement, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, en Amérique du Nord. Il y a aussi des pays d'Amérique du Sud et le Japon et la Corée, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en Asie-Pacifique. Et c'est une organisation dont les pays membres augmentent. Le CDE, en fait, a commencé, on va revenir un peu dans l'histoire, c'est un peu l'organisation héritière du plan Marshall, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Europe était... il fallait reconstruire toute l'Europe qui avait été un peu décimée par la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les États-Unis et l'Europe, les pays européens, ont créé le plan Marshall pour subventionner cette reconstruction. Et donc, c'est de ce plan Marshall-là qui est devenu l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui rassemble les pays autour de l'idée de partager sur comment on peut construire de meilleures politiques publiques pour nos sociétés, pour le bien-être des sociétés et pour le développement économique de nos sociétés. Donc ça, c'est un peu ce qu'est l'OCDE. Et donc, dans l'OCDE, il y a différentes directions. Et de manière très schématique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OCDE fonctionne un peu comme un gouvernement. C'est-à-dire que tu vas retrouver les mêmes thématiques que tu veux trouver dans les gouvernements. Donc, en France, on a un ministère d'éducation, il y a une direction d'éducation et des politiques éducative à l'OCDE. On va avoir en France un ministère de la transition écologique à l'OCDE, on a une direction de l'environnement, par exemple, juste de manière très schématique. Donc moi, je travaille pour la direction de l'éducation et des compétences, donc qui conseille les pays membres de l'OCDE sur leur politique d'usage dans l'éducation. Et dans cette direction, donc en ce moment, je travaille au sein d'une équipe qui est responsable d'une enquête, donc une enquête internationale qui s'appelle l'enquête PISA. Et peut-être que certains des auditeurs ont entendu parler ou ont pris le test PISA. Donc en fait, c'est un test qui a lieu tous les 4 ans, enfin tous les 3 ans avant, maintenant tous les 4 ans, où en fait un échantillon, un groupe d'élèves des pays qui participent à l'étude, des élèves de 15 ans passent un test en maths, en sciences et en compréhension de l'écrit, en reading en anglais, et aussi répondre à un certain nombre de questions sur leur parcours, sur leurs conditions de vie, sur leur rapport à l'apprentissage. Et leur chef d'établissement répond aussi à un certain nombre de questions sur l'établissement. Et les informations qu'on collecte de cette enquête-là, donc de l'enquête PISA, nous permettent de dresser un tableau de l'apprentissage, quel est de l'apprentissage dans les différents systèmes éducatifs. Donc, c'est pas un test pour noter les élèves, mais c'est un test pour pouvoir dégager des tendances, des recommandations pour les pays sur leur système éducatif.
Et au sein des recherches de l'OCDE, vous avez identifié un certain nombre de compétences, de capacités, de valeurs, d'attitudes à avoir. Est-ce qu'on pourrait échanger sur le sujet?
Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tout ce qu'on appelle les compétences fondamentales. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire, il y a toutes les compétences en compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, ce qu'on appelle la littératie. Il y a toutes les compétences liées à la numératie. Donc, il y a tout ce qu'on appelle, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences fondamentales. C'est, si tu veux, le socle sur lequel d'autres apprentissages se font. Si on n'est pas capable de comprendre, d'inférer du sens de ce qu'on dit, que ce soit à l'oral, soit à l'écrit. Et quand je dis l'écrit, c'est différents supports. C'est de pouvoir lire un journal, lire un journal scientifique, un tweet, un message, d'avoir un regard critique sur ce qui est dit et communiqué. Donc, il y a un certain nombre de compétences qui sont liées à ça. Et pareil, un certain nombre de compétences liées à la numératie, donc qui sont de pouvoir avoir un raisonnement scientifique, de pouvoir résoudre des problèmes de manière mathématique, d'inférer aussi. Donc, il y a plein de... Voilà, donc c'est un certain nombre de compétences qui sont fondamentales pour pouvoir ensuite continuer ses études ou alors s'insérer dans le monde du travail. Et elles sont fondamentales parce qu'on bâtit dessus. Donc, il faut absolument les avoir. C'est les fondations de la maison. Donc, ça, c'est bien sûr fondamental. Et on va les mettre de côté parce que je pense que les auditeurs sont là. S'ils sont au collège ou au lycée, comprennent de quoi je parle. Mais il y a d'autres compétences qui sont aussi très importantes et qu'on apprend aussi au collège et au lycée. Là, quand je dis compétences, c'est l'ensemble des ce qu'on appelle en anglais les skills. Donc, c'est les capacités, on va dire, les attitudes, les valeurs et les connaissances. Donc, c'est un certain nombre de savoirs, de savoir-faire ensemble. Et l'une, on va dire, des attitudes que l'on montre est très importante pour l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle en anglais, et je n'ai pas la traduction française, bien que je suis sûre qu'elle existe, ce qu'on appelle le growth mindset. Donc, le growth mindset, c'est la conviction que l'apprentissage n'est pas inné, les compétences ne sont pas innées, mais qu'en fait, elles s'apprennent. C'est par exemple, il y a souvent toujours ce cliché un peu malheureux de dire qu'on a la bosse des maths. Donc, soit on est matheux, soit on ne l'est pas. De se dire que, en fait, pour réussir en mathématiques, il faut, c'est quelque chose d'inné. On est soit doué en langue ou on ne l'est pas. Et on sait par nos études qu'en fait, les élèves qui pensent que les capacités sont fixes, c'est ce qu'on appelle le fixed mindset, ou ceux qui vont avoir plus de difficultés à apprendre que ceux qui sont convaincus qu'en fait, par l'effort, par l'apprentissage, ils peuvent s'améliorer, améliorer leurs compétences. Et donc, c'est ce que je dis, ce que mon conseil là, c'est de vraiment ne pas se décourager. Il n'y a pas quelque chose d'inné dans l'apprentissage. Tout s'apprend. On peut avoir plus de difficultés à apprendre quelque chose et ça va peut-être prendre plus de temps d'apprendre quelque chose. Rien n'est, on va dire, insurmontable dans l'apprentissage. Dans mon expérience personnelle, par exemple, je ne dirais pas que je n'avais pas été particulièrement, je n'avais pas doué ou avoir une intuition mathématique innée. J'ai beaucoup travaillé les mathématiques et j'avais de très bons résultats en mathématiques, mais ça m'a demandé un effort et j'ai fourni cet effort pour pouvoir développer mes compétences en mathématiques et ce que j'appelais avant la numératie. Donc ça, c'est un mode d'apprentissage parmi d'autres qui est important. Il y en a d'autres. On parlait de la curiosité avant. Tu avais aussi mentionné, Yosra, au tout début, la résolution de problèmes. Donc, d'apprendre à poser les termes d'un problème, pour pouvoir le résoudre. Donc, aussi, donc, tout ça, ça fait partie d'un ensemble de compétences. qu'on apprend pendant nos études et aussi par la suite, et qui sont très, très importantes et qui sont aussi importantes que ce que j'appelais les apprentissages fondamentaux.
Donc, je vais essayer de résumer ce que tu viens de nous expliquer en deux, trois points. Premièrement, tu dois avoir la growth mindset. Donc, c'est un état d'esprit qui te rappelle que pour le moment, effectivement, c'est compliqué, que tu n'y arrives pas, mais c'est temporaire. En identifiant les méthodologies d'apprentissage qui te correspondent, tu y arriveras. Et deuxièmement, la maîtrise d'une matière, c'est pas inné. Donc, t'es pas juste bon en maths, bon en français, bon en histoire. Tu dois accepter de faire face à de nombreuses difficultés pour pouvoir être bon dans ces matières.
C'est très bien dit et je rajouterai juste le point, on apprend de ses erreurs. En fait, c'est en faisant des erreurs ou si tu veux des fautes et c'est en prendre, mais ne pas les prendre comme une finalité. D'essayer de comprendre pourquoi on n'y est pas arrivé, pourquoi il y a quelque chose on n'arrive pas à ce qu'il fallait. Et c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre. Alors, on apprend en se trompant. Ce n'est pas en ayant tout parfait dès le début.
Et Soumaya faisait référence aux recherches PISA, donc P-I-S-A. Et si tu souhaites davantage d'informations sur ces recherches, je t'invite à te rendre sur le site de l'OCDE et de pouvoir lire l'intégralité de ces recherches en ligne. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'équipe de Soumaya fait également d'autres recherches sur le bien-être et l'engagement et leur importance. Encore une fois, toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'OCDE. Soumaya, on va presque clôturer cet épisode. Est-ce que tu as des derniers conseils pour les personnes qui nous écoutent ?
Ne te limite pas. Sois ambitieux, ambitieuse et rêve d'un monde plus grand pour toi. Un peu ce que je disais avant sur la vie pleine, c'est je te souhaite une vie pleine et plein d'aventures et ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver. C'est un peu... Un peu cliché, mais c'est quelque chose dont je suis convaincue, c'est donne-toi les moyens d'aller au-delà de ce que peut-être d'autres attendent de toi ou d'un parcours qui a été tracé pour toi, mais qui ne te correspond pas.
Un grand merci, Soumaya, un grand merci pour tes conseils, pour ta transparence et pour toutes les recherches que tu fais.
Merci à toi et...
Donc à toi de jouer, lis les recherches, réécoute les conseils et abonne-toi au podcast. À la semaine pro!